Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Sylvie Franchet d'Espéré, prédicatrice de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Chers amis, auditeurs de Radio Alliance Plus, je vous propose d'entrer dans ce culte avec des paroles du prophète Ésaïe. Vous les assoiffés, accourez vers l'eau. Même pauvres et humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles, nous les assoiffés. Et nous voici devant toi, à l'écoute, prêts à recevoir l'eau vive de ta parole. Et pour commencer, nous nous tournons vers toi pour te louer. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom.
Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix.
Que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. Que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse.
Que tout en moi te rende gloire.
Dans le silence de nos cœurs, écoutons ce que Dieu attend de nous. Un scribe demanda à Jésus, « Maître, quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là.
Ô notre Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie, notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Nous prenons les trois lectures bibliques de la liste œcuménique qui correspondent à ce dimanche. Et pour commencer, au chapitre 24 du livre de l'Exode.
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Le peuple entier répondit d'une même voix : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant : Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles.
Ensuite, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, à partir du verset 12.
Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.
Et enfin, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, verset 12. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour la Pâque, les disciples de Jésus lui disent : Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? Alors Jésus envoie deux de ses disciples en disant : Allez à la ville. Quelqu'un qui porte une jarre pleine d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison : le maître te fait dire « Où est la salle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de nous qui mange avec moi me livrera. » Les disciples devinrent tout tristes et ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Jésus leur dit « C'est l'un de vous, l'un des 12, qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent, mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends la scène, lorsque je communie? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Aujourd'hui, j'ai voulu affronter avec vous cette question que j'ai longtemps évitée, du moins contournée. En lisant les textes du jour que vous venez d'entendre, j'y ai vu comme un signe. Oui, c'était le moment. Et en posant cette question, je pense à mes propres hésitations, mais aussi à la diversité des conceptions et surtout des réactions chez des personnes que je connais. Plusieurs d'entre elles ne supportent pas le côté figé de la scène. Elles trouvent que c'est un moment austère où l'on ne se montre pas très joyeux. Et il est vrai que ce n'est pas un vrai repas. Mais c'est un repas stylisé qui ne retient du dernier repas de Jésus avec ses disciples que les paroles prononcées sur le pain et sur la coupe. Il y a dans ce moment de la gravité, mais il y a aussi une dimension de partage dans ce que nous appelons aussi la communion. Communion avec le Christ, mort et ressuscité, et communion avec les frères et les sœurs qui sont avec moi dans le cercle, autour de la table sainte. Vous l'aurez compris, cette méditation aura un tour personnel, fondé sur mon expérience. Mais même pour les choses les plus personnelles, il convient de procéder avec méthode. Et il faut, en un geste hérité de la Réforme, retourner au texte. Et aujourd'hui, c'est le texte de l'évangéliste Marc qui nous est proposé. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Nous sommes dans le temps de la Pâque. L'agneau pascal sera mangé le soir au premier jour de la fête qui commence chez les Juifs au coucher du soleil. Il y a une atmosphère spéciale, faite à la fois de joie et de gravité. La Pâque commémore la sortie d'Égypte, libération de l'esclavage, mais aussi difficile passage vers la liberté. le lieu choisi, est une pièce située à l'étage, une chambre haute. Le soir venu, il arrive avec les 12. Le soir venu, c'est un signal narratif, le jour de la fête a commencé. Mais personnellement, cette expression me parle et me projette dans une atmosphère à la fois intime, paisible et tragique. Lorsqu'on la lit au moment de la scène, j'ai l'impression d'être transportée dans le cercle des disciples, ce jour-là. J'entre dans le texte, j'entre dans le chemin qui mène à la passion. J'entre aussi dans un moment spécial, le soir, la tombée du jour, une forme de secret enveloppé dans l'ombre. Mais je sens qu'une chose importante arrive, elle est déjà là. C'est lui, c'est Jésus, la veille de sa passion. Il s'adresse à ses disciples bien-aimés, il s'adresse à tous ses disciples par-delà les siècles, car il n'y a plus de barrière temporelle. C'est cela le miracle de la scène, la présence actualisée du Sauveur, l'irruption d'une autre dimension. En fait, les exégètes l'ont bien noté, il y a dans ce récit plusieurs repas condensés en un seul. En premier lieu, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples, l'ultima cena, comme disent les Italiens. Si Jésus leur a déjà annoncé plusieurs fois sa mort, cette fois-ci, ça y est, le complot est lancé. Avec la complicité de Judas, la fin est programmée. C'est un repas d'adieu. Et on y retrouve la même atmosphère que dans les discours d'adieu de l'évangile de Jean. Une atmosphère de tristesse et d'incompréhension, dans laquelle Jésus ouvre une brèche, un passage, une espérance. Et voici ce que dit Marc. « En vérité, je vous le déclare, jamais plus, dit Jésus, je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Jamais plus, c'est la tristesse. Jusqu'au jour où, c'est l'espérance. Telles sont les deux faces de cette séparation. « Ma vie sur terre va s'achever, dit Jésus. Mais elle trouvera une suite le jour où je participerai au banquet du royaume. D'un repas à l'autre, d'un vin à l'autre, car le vin nouveau est celui de la fête, du grand banquet du royaume. Et à ce banquet-là, tous seront invités. » Tous? Vraiment tous? Même Judas? Nul ne le sait. Et si Jésus dit de lui « Quel malheur pour l'homme par qui le Fils de l'homme est livré !» Il s'agit bien de malheur et non de malédiction. Et surtout, Jésus n'exclut pas Judas du repas d'adieu, Judas qui va le livrer. Il n'exclut pas non plus Pierre qui va le renier, ni les dix autres qui vont se retirer après sa mort dans la résignation et peut-être dans la honte. Tous sont là, tels qu'ils sont, pour partager le repas de la Pâque, qui sera le dernier avec leur maître. Quant au sort de Judas, il appartient à Dieu. Et pour nous, pour moi en tout cas, Judas restera toujours une énigme. Ce repas d'adieu est un repas pascal, Marc le dit clairement. Certes, il y manque un élément essentiel. Le partage de l'agneau pascal n'est pas mentionné. C'est sans doute que ce repas va au-delà de la Pâque. Nous allons le voir. Mais si l'on devait retenir quelque chose du sens de la Pâque juive, ce serait peut-être l'appel à la mémoire. Il n'est pas présent chez Marc, c'est vrai, mais chez Luc et chez Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » De même que les Hébreux lors de la célébration de la Pâque, sont invités à se souvenir de l'intervention de Dieu en faveur de leurs aïeux lors de la sortie d'Égypte. De même, les disciples de Jésus sont appelés à se souvenir de ce repas qui annonce la mort de leur maître bien-aimé pour donner sens à leur présent et fonder un avenir. Car pour le peuple juif jadis, comme pour les disciples ce jour-là, le passé doit être rappelé, répété régulièrement pour qu'il continue à faire vivre. C'est le propre de tout rite. Mais au cœur de ce repas, il y a une chose tout à fait nouvelle et centrale, les paroles de Jésus sur le pain et la coupe. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » Rien qui évoque la Pâque dans ces paroles de Jésus, mais un mot ancien qui tout à coup revient, l'Alliance. Luc, dont le récit diffère de celui de Marc sur plusieurs points, précise bien qu'il s'agit de la nouvelle alliance. C'est très important. Le sang versé lors de la mort de Jésus fonde une alliance nouvelle, ouvre une ère nouvelle. Pour bien comprendre, il faut se référer au texte de l'Exode sur l'alliance scellée par Moïse entre Dieu et le peuple juif, texte que nous avons entendu tout à l'heure. Moïse sépare le sang du sacrifice en deux parties. L'une est répandue sur l'autel, et donc donnée à Dieu. L'autre est répandue sur le peuple sous la forme d'une aspersion. Les deux parties qui font alliance, Dieu et le peuple, sont unies par le partage du même sang. De la même façon, le vin du dernier repas est partagé entre les convives et il évoque le sang versé pour la multitude. Et donc pas seulement pour les disciples, ni même pour le peuple juif. C'est là que se situe la première nouveauté. La mort de Jésus, par le sang versé, est l'instrument d'un pardon et d'un salut universel, le signe d'une alliance nouvelle. Mais où est, direz-vous, la part de Dieu ? En fait, il faudrait plutôt dire où est le sacrifice. Eh bien, c'est là la seconde nouveauté, qui est pour les Juifs de cette époque un grand basculement. Dans la nouvelle alliance, il n'y aura plus jamais de sacrifice. Jésus s'offre lui-même, volontairement, pour sauver les hommes, tous les hommes. L'alliance nouvelle est scellée sur la croix, une fois pour toutes, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Lorsque je prends la scène, je m'inscris dans cette nouvelle alliance. Et pour reprendre les paroles de Paul aux Corinthiens, j'annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est pas rien pour moi que Jésus soit mort sur la croix. J'y pense et je laisse cette pensée entrer en moi. Je prie même pour qu'elle m'envahisse tout entière. Je suis pardonné, délivré, habité. Et je regarde vers l'avenir, ou plutôt l'avenir vient à moi, dans mon présent soudain dilaté. Pas tellement, à vrai dire, le banquet du royaume et le retour du Christ, mais surtout demain et les jours suivants. Car Christ est aussi ressuscité, vivant à jamais, et il m'accompagne jour après jour. Cette alliance scellée pour la multitude vaut naturellement pour moi, et aussi pour mon voisin ou ma voisine dans le cercle, que je les connaisse ou non, pour telle ou telle personne que je n'aime pas trop, qu'elle participe à cette scène ou non. L'Alliance nouvelle nous rassemble toutes et tous. Thank you. reste la question la plus difficile, en tout cas la plus controversée. Que signifie « ceci est mon corps, ceci est mon sang » ? Quelle pensée cette affirmation fait-elle naître en moi ? Quelle réalité cela a-t-il pour moi au moment où je communie ? Je ne crois pas qu'il y ait une identification, une transformation, quelle qu'elle soit, des espèces. C'est comme ça qu'on appelle le pain et le vin. Les controverses du XVIe siècle me semblent caduques. Et l'idée même de la transsubstantiation, telle que la revendique l'Église catholique, n'est ni dans ma culture religieuse, ni dans ma foi. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'usage du verbe être n'implique pas nécessairement une identification. On le trouve couramment dans le Nouveau Testament avec des attributs variés qui indiquent un rapport d'analogie ou une image. On peut penser à ces paroles tirées de l'Évangile de Jean, par exemple. « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le cep, je suis le chemin. » Mais surtout, je suis le pain de vie, avec toute la suite du discours de Jésus au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, qui semble anticiper sur la scène. Les compréhensions varient entre les églises, mais aussi à l'intérieur des églises. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ces paroles, Jésus parle symboliquement de sa mort, du don qu'il fait de sa vie pour la multitude. Pour l'humanité. Mais je crois aussi que le fait de manger et de boire a un sens profond. Cette invitation de Jésus à ses disciples est une invitation à s'unir à lui. La dimension spirituelle peut être portée par un geste très charnel, très basique même, manger et boire. C'est une autre forme de compréhension et même une autre forme de prière. En ingérant, en assimilant cette nourriture et cette boisson, en les associant en pensée à la personne de Jésus, à sa mort et à sa résurrection, je leur donne un sens pour ma vie. Je me laisse emporter, comme l'ont fait jadis les disciples. En somme, en prenant la scène, je m'inscris dans deux dimensions. Une dimension verticale d'union à Dieu, une dimension horizontale de communion avec mes frères et mes sœurs qui sont avec moi au bénéfice de la mort de Jésus. Or, ces deux dimensions, ces deux axes, se croisent en un centre qui est aussi leur origine, la mort de Jésus, sa vie offerte pour le salut de tous les hommes. Et à partir de ce centre, les deux axes s'étendent vers le large, vers l'avenir, vers les temps derniers que j'espère et vers le lendemain qui m'attend. Cela fait beaucoup de choses. En fait, je suppose que vous êtes comme moi, je ne vis jamais tout cela à la fois. Selon les jours, selon les moments de ma vie, selon ce que m'a apporté la prédication qui précède, je reçois tel ou tel élément de la scène et non pas les autres. Il arrive même, je dois le dire, qu'il y ait des scènes arides qui ne me portent pas. Mais j'y suis allée quand même. J'ai répondu à l'invitation de Jésus. Ce n'est pas rien. Et lui, il me connaît. Pour finir, je pense aux pèlerins d'Emmaüs, qui reconnurent Jésus, le Jésus ressuscité, si mystérieux, au moment où il a rompu le pain. Ce fut un choc, une révélation. Leur cœur a été touché, leur esprit s'est illuminé. Et cette révélation a éclairé rétrospectivement toute leur conversation avec lui. Je ne doute pas qu'elle a aussi éclairé leur avenir et guidé leurs pas. Chers amis, frères et sœurs en Christ, puissions-nous, au moins une fois, vivre la scène comme les pèlerins d'Emmaüs. Amen. Je vous invite à confesser la foi chrétienne. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent dans les hommes et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni même de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant te présenter le monde, notre monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance jaillie de la résurrection, une espérance qui est en celui-là seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Et nous faisons monter vers toi d'une seule voix la prière qui comprend toutes les prières.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le culte touche à sa fin. Nous allons nous séparer, chacun, chacune, dans son propre lieu. Que le Dieu de Jésus-Christ vous accompagne sur vos chemins tout au long de cette semaine. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Sylvie Franchet d'Espéré, prédicatrice de l'Église protestante unie de Nîmes, avec la participation de Philippe Cagnon. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme «